ozone, O3. Gaz, 3 mm d'épaisseur. Environ 300 d'Opson.
Ozone libre. Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le petit Thomas attend ses parents à la caisse centrale.
Ozone libre.
Qu'est-ce qu'on a retrouvé, Thomas ?
Ozone libre, de cristaux.
Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le temps passe.
Bienvenue chez Dobson. Ozone libre.
Ozone libre.
Ozone, une heure de liberté.
Bonjour, donc l'histoire aujourd'hui se passe donc à Paris. Vous avez deux personnes donc de la voirie qui balaient donc le trottoir aux Champs-Élysées. Donc ils balaient devant un beau magasin de luxe, de chaussures de luxe, et ils regardent, ils se disent, mais t'as pas compte, tu vois pas le prix des chaussures. Même dit, mais ils sont en croco. Ah, mais quand même, et même avec un an de salaire, je pourrais pas me les payer. Ah ben non, mais ça pourra faire autre chose comme métier, hein. Ben écoute, avec les connaissances que l'on a, on pourrait donc aller chasser le croco, en ramener un, et puis faire des chaussures, hein. Ah, c'est pas bête que tu dis, ben écoute, on va tâcher de s'organiser. On va prendre un an de congé sabbatique, et puis on va s'organiser. Comme de fait, ils s'organisent, ils prennent l'avion, ils louent un bateau, et ils se mettent à la chasse au croco. Bon, ils en attrapent un gros, et avec beaucoup de mal, donc ils le hissent donc à l'intérieur de la pirogue, et ils repartent. Mais il y a un moment, donc il y a un des deux compères qui prend le croco qu'ils avaient attrapé et qui le rebalance à l'eau. Alors tu dis, mais attends, c'est faux, pourquoi tu fais ça? Alors tu réponds, mais j'ai vu, il n'avait pas de chaussures.
Parlement, parle vrai. Droit, constitution, état, pays, pouvoir, charte, monnaie, économie, communauté, paix, guerre, peuple, intérêt, législation, élection, démocratie, frontières, union, construction, reconstruction, importante, accord, traité, Erasmus, efficacité, résistance, coalition, union douanière, perte d'identité, partage, circulation. Aujourd'hui, l'avez-vous deviné, nous allons parler de la CECA, de la CE, de l'UE, oui, l'Union européenne. À un mois des élections, tant attendues par tous, nous allons brumiser la question européenne. Pour cela, nous recevons Pauline Simons-Desmet, qui fait partie de la Maison de l'Europe, ce qui tombe bien eu égard à notre thème d'aujourd'hui. Pour vous mettre dans l'ambiance, une chanson que nous n'avons pas. Les Maisons de l'Europe sont des associations créées à l'initiative du Parlement européen pour rapprocher l'Europe de ses citoyens et aujourd'hui pour nous rapprocher de notre thème.
Au sommaire aujourd'hui, une interview belge, un Navarro romano-austro-hongrois, une petite cuisine française, des textes de latin, une rubrique guinéenne, des musiques à la source Erasmus, un micro-trottoir à la grecque et une minute du pôle à l'Arlésienne pour vous servir aujourd'hui.
Et puis maintenant, un petit texte du Point des mots de Grégory. Donc c'est sur l'Europe. L'Europe, c'est le vieux continent envié par le monde entier pour son histoire, son architecture et sa situation géographique. Mais ces dernières années, les pays riches de l'Europe ont décidé de s'associer. Aujourd'hui, il y a 28 pays membres de l'Union européenne et ils forment un parlement qui se trouve à Strasbourg et Bruxelles. Ils décident ensemble des lois, subventions, cotisations pour les pays membres de l'Union européenne. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, nous allons débattre du sujet de l'Europe. Donc, pour répondre à ce sujet, nous recevons Pauline Simons-Desmet de la Maison de l'Europe. Nous allons vous proposer d'écouter un premier micro-trottoir pour l'instant.
Qu'est-ce que l'Union européenne pour vous ?
C'est un cadre.
plus un cadre pour maintenir un petit peu une stabilité, en fait.
L'Union européenne, bah, pour moi, ils sont trop nombreux, on devrait être 5-6, maximum une douzaine, quoi. On a trop étendu l'Union européenne, et puis comme c'est des mœurs différentes, des régions différentes, des mentalités différentes, à un moment donné, ça pose des problèmes, quoi. Ça pose des problèmes, alors qu'on devrait être une dizaine maximum, quoi. Bon, ça, c'est bon. On a été trop vite, quoi. On a été trop vite à l'étendre à trop de peuples, quoi.
Bah, l'Union européenne, on a déjà voté pour ça. Ça existe. Alors, ils se réunissent entre eux. Ils discutent de choses, en fait, dont on devrait avoir les retombées. Et puis finalement, on s'aperçoit que l'un après l'autre, ils sont condamnés pour fraude fiscale, on les fout en prison, après il y en a d'autres qui les remplacent et tout. Nous, on assiste à tout ça. On continue à recevoir nos factures comme d'habitude. On paye comme d'habitude. Alors là, je pense que les nouvelles élections, moi je vais y aller, mais ça dépend de la liste. Mais finalement, j'ai l'impression que pour nous, simples citoyens, il n'y a pas de retombée positive.
Qu'est-ce que l'Union européenne pour vous ?
Bah, c'est un regroupement de pays qui ont des accords entre eux.
L'Union européenne, c'est un rassemblement de pays avec lesquels on peut...
Avec un engagement.
Suite
à la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça.
Un beau projet qu'il faut maintenir.
Je ne sais pas encore.
Pour moi, rien du tout.
Comme son nom l'indique, une union de plusieurs pays, pas forcément tous égaux en ce qui concerne l'économie. Voilà.
Ben, l'Union européenne, c'est pour moi, en tant que résident, c'est une bonne chose. C'est l'ensemble des pays, en fait, qui constituent l'Europe et ça fait la force. L'Union européenne, pour moi, je crois que c'est la convivialité, voilà, vivre ensemble, c'est bien pour moi.
Je pense que c'est une manière de réunir les gens et que du coup, c'est cool parce que quand on est réunis, tout se passe mieux.
L'Union européenne ?
Oui.
Ah, c'est le bloc face aux autres blocs, face aux États-Unis, à l'URSS, tout ça.
Quelle réaction avez-vous à l'écoute de ce micro-trottoir ?
Alors, quelle réaction ? Plusieurs. La première, déjà, c'est que personne n'a parlé du mot paix. Je ne l'ai pas entendu dans ce micro-trottoir et l'Union européenne, c'est avant tout la paix. Puisque ces pays qui se réunissent, d'abord, ils ne se font plus la guerre et c'est quand même ça l'important. J'ai aussi entendu plein de pays qui ont des mœurs différentes. Oui, et heureusement, puisque la devise de l'Union européenne, c'est « unis dans la diversité ». Donc justement, on est différents et c'est ce qui fait notre richesse et c'est ce qui fait qu'on s'entend et que la paix, c'est important. Et puis après, j'ai trouvé que c'était plutôt positif. Et quand j'entends qu'on n'a pas de retombées positives, moi, je trouve que si, quand même. En tant que citoyen européen, on a quelques droits. La liberté de mouvement, Erasmus, les droits humains qui nous sont protégés. Donc je trouve qu'on a quand même 2-3 trucs positifs qui viennent de l'Europe quand même, mais ce micro-trottoir, il était plutôt positif.
Pouvez-vous, en quelques mots, nous présenter la Maison de l'Europe ?
Oui, bien sûr. Alors la Maison de l'Europe, c'est une association avant tout, une association de la loi 1901, donc on est complètement indépendant. Et on a un label Europe Direct qui fait qu'on travaille avec la Commission européenne. On est son relais en région, donc on est le lien entre les institutions européennes et les citoyens dans les deux sens. Donc nous, on apporte de l'information et en même temps, on remonte aussi l'information qu'on a du terrain à la Commission européenne. La Maison de l'Europe, elle travaille avec le grand public, avec la jeunesse. On envoie aussi les jeunes en mobilité internationale. Donc si vous avez une question, que vous voulez partir à l'étranger, c'est vers la Maison de l'Europe qu'il faut se tourner. Et puis on est aussi là pour aider les porteurs de projets, donc les gens, des citoyens, associations, entreprises qui veulent avoir des fonds européens. On est aussi là pour les orienter et éventuellement les aider à monter un dossier.
Quelles sont été les raisons du fondement de l'Union européenne ? Quels pays en sont à l'origine ?
Alors, les raisons, je l'ai un peu évoqué d'abord, c'est la paix, hein. La paix et la reconstruction. Donc, à la sortie de la guerre, 6 pays ont eu besoin de travailler ensemble pour se reconstruire. Donc, on a évidemment la France et l'Allemagne de l'Ouest à l'époque, qui se sont mis ensemble pour se dire, ben voilà, il faut qu'on arrête, on arrête les guerres. L'Europe, c'était quand même un continent de guerre jusque-là. Et là, on s'est dit, il faut qu'on arrête les guerres. Et quel est le meilleur moyen? Ben, qu'on se mette ensemble et qu'on soit dépendants l'un de l'autre, notamment pour notre commerce d'armes. Donc, on a l'Allemagne de l'Ouest, la France, l'Italie, et puis les trois pays du Benelux qui sont au milieu du jeu de ski, donc la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, qui se sont mis ensemble pour travailler pour la paix et pour la prospérité économique.
Bien, mais maintenant nous allons écouter un second micro-trottoir.
Qu'est-ce que vous attendez de l'Union européenne aujourd'hui ?
Qu'est-ce que j'attends ? Bonne question. En vrai, j'attends pas grand-chose. Ça fonctionne tellement pas en ce moment qu'il n'y a plus rien à attendre, en fait. Donc, voilà.
Oh, bah, j'attends pas grand-chose. Bah, il faudrait, comme dit, j'attends qu'on se réduise à une dizaine de nations, quoi. Pour que ça fonctionne, mais là, on est trop nombreux. Pour moi, il faudra arriver à en disqualifier certains, quoi, qui pour arriver à avancer sur quelque chose. Il y aurait l'Allemagne, il y aurait la France, il y aurait l'Espagne, l'Italie. Enfin, il y a les principaux pays qui sont autour de nous, et les autres viendraient après si vraiment on en a besoin, quoi. Mais il faudrait revenir à être moins nombreux, quoi. De toute manière, pour moi, on est trop nombreux, de toute manière. Surtout que la Grèce, il y a eu des problèmes déjà, ils n'auraient pas dû l'être, ils y ont été, et puis ça a créé des tas de problèmes avec la Grèce. Puis les autres pays, pour moi, ils sont trop différents de la véritable Europe, quoi. Et donc, ça crée des problèmes, quoi. Je pense que s'il devait y avoir un changement qui satisfasse tout le monde, moi, à mon âge, ça m'étonnerait que j'en profite beaucoup.
J'ai pas vraiment d'attente par rapport à l'Union européenne. C'est pour moi, pour l'instant, j'ai pas de répercussions sur ma vie. Donc, si ça continue comme ça, pour l'instant, ça me gêne pas.
Je sais pas grand chose. Hein.
Là, pour l'instant, moi, j'ai pas réfléchi. Voilà.
Au niveau sécurité, ça va, on est bien.
Oui, c'est plus ça, de la sécurité. Oui,
bah, qu'elle fonctionne déjà, et puis on verra bien par la suite. Si ça fonctionne bien, bah, tout le monde sera content, j'espère. Voilà.
Bah, je pense que l'ouverture, tout c'est bien, mais moi, je n'attends pas grand-chose. Voilà. Mais je pense qu'il y a des gens qui aimeraient bien circuler librement, surtout au niveau commerce, je parle. Hein. Voilà, pourquoi pas. Après, voilà, c'est ce que je pense, quoi, mais pas grand-chose après ça.
Avant tout, je vais peut-être me répéter, mais surtout une uniformité au niveau des lois.
Qu'est-ce que j'ai pas attendu de l'Union européenne? Ben, déjà, c'est une force. Donc, je pense qu'ils vont aller loin. Et c'est le souhait même pour nous aussi, pays africains, que nous constituons aussi une union comme à l'image de l'Union européenne. Donc, je pense que ça va aller loin et déjà, c'est bon.
Ce que j'attends de l'Union européenne, c'est de fédérer un peu tout le monde et que voilà, de faire en sorte que tout se passe bien dans la partie du monde qui la concerne.
Avez-vous une réaction sur le second micro-territoire ?
Alors oui, bien sûr. Du coup, la première chose, bah là, on voit que beaucoup de gens ne savent pas quoi attendre. Ils disent « j'ai rien à attendre de l'Union européenne », alors que pourtant, il y a quand même quelques enjeux, moi je trouve, en ce moment dans le monde, que ce soit les enjeux sociaux, les enjeux économiques, les enjeux d'écologie, les enjeux sociétaux, tous ces autant de domaines où l'Union européenne peut intervenir. Donc, on a entendu la sécurité. Donc, c'est évident que l'Union européenne, elle est dans le premier micro-trottoir, on entendait « c'est un bloc contre les autres blocs du monde ». Bah oui. Et du coup, pour ça, c'est un enjeu. Donc, il y a plein de choses à attendre de l'Union européenne. Et je pense que ce qui sort de ce micro-trottoir-là, c'est qu'elle n'est pas connue, qu'on ne voit pas du tout à quoi elle sert. Puisqu'on n'a rien à attendre, c'est qu'elle ne sert à rien, en fait, on a l'impression.
Oui. Quels sont actuellement les buts de l'Union européenne? Et combien de pays la composent en su
Alors, pour l'instant, il y a 28 pays qui sont dans l'Union européenne tant que le Royaume-Uni n'est pas sorti. Donc pour l'instant, le Brexit n'est pas encore acté, donc on est en pleine négociation, ça a été repoussé, donc on est sur fin juin, voire fin décembre. Donc là, pour l'instant, on dit encore qu'on est 28, mais on sera bientôt 27. Quels sont les buts de l'Union européenne? Ils sont multiples, ils sont nombreux. Il y a le but de la paix qui persiste. Il y a le but quand même que les citoyens soient toujours le mieux protégés, le plus libres, qu'ils vivent le mieux possible. Ça, je pense que c'est le but de l'Union européenne. Après, elle fonctionne comme elle peut, et ce sont les États qui la font. Donc quand on trouve que l'Union européenne n'avance pas assez vite, assez bien sur un sujet, c'est souvent parce qu'il y a des États qui peuvent le bloquer.
L'Union européenne a plusieurs dimensions politiques, économiques et sociales. L'introduction de l'euro a-t-elle réduit l'Europe à sa dimension économique seule ?
Alors, je pense pas, puisque l'Union européenne est avant tout une construction économique. Donc depuis les années 50, c'est l'économie. La politique, c'est vraiment venu après, à partir des années 80 et surtout 90 avec le fameux traité de Maastricht en 92, où on acquiert tous la citoyenneté européenne à partir du moment où on a la nationalité d'un de ses membres. Donc là, le tournant politique, il est là. Et l'euro arrive en 2002 et c'est un lien plus fort entre les pays. Mais c'est vraiment pas un retour à l'économie pure. Au contraire, l'euro, ça a vraiment encore plus lié les pays, politiquement parlant, et c'est, pour certains, c'est même un problème. Donc pour moi, l'euro, on a été plus loin dans l'intégration politique, justement.
Oui.
Qu'est-ce qui est mis en place pour mettre en avant les aspects politiques et sociaux de l'Union européenne ?
Alors, en termes politiques, la première chose qui a été mise en place dans les années 80, c'était, on a commencé à parler de valeurs. On a mis un drapeau, on a mis des symboles pour représenter l'Union européenne. Et c'était ça la première chose politique qu'on a essayé de faire. En fait, on a essayé de créer un peuple européen. On a essayé de créer des Européens et plus seulement des Français, des Bulgares, des Espagnols. Donc ça, on peut un peu mettre... c'est quand même pas une énorme réussite, hein. Il y a quand même pas... Tout le monde se sent pas européen, loin de là. Donc la politique, c'est d'abord passé par ça, et puis c'est passé par mettre en commun notre monnaie, l'euro. C'est passé par mettre en commun une partie de nos lois, de lui déléguer des compétences, donc par exemple tout ce qui est commerce international. Il n'y a que l'Union européenne qui peut négocier avec les États-Unis ou le Canada, et ça c'est quand même une grosse force politique pour l'Union européenne.
Comment définiriez-vous la citoyenneté européenne?
C'est une très bonne question et c'est une question très difficile. Je pense que déjà, comment on pourrait définir la citoyenneté française ou belge ou n'importe laquelle. Donc la citoyenneté européenne, c'est déjà une citoyenneté qui s'ajoute à la nôtre. C'est une carte en plus, c'est quelque chose qu'on a en plus et ça nous fait rien perdre. C'est important de se dire ça. C'est pas parce qu'on se sent européen qu'on se sent pas français, qu'on se sent pas belge ou pas normand. Au contraire, c'est vraiment une citoyenneté de superstition. Alors on peut la définir par les droits qu'elle nous apporte, en fait. Donc, le fait qu'on puisse bouger, vivre, travailler dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Il suffit de comparer si vous voulez aller travailler au Canada ou les gens qui viennent d'ailleurs que dans l'Union européenne qui veulent travailler en France, à quel point c'est compliqué, alors qu'un citoyen espagnol, bulgare, il peut venir travailler en France super facilement. C'est quand même vraiment pratique. Et puis, il y a toute une série de droits fondamentaux que l'Union européenne nous accorde. La lutte contre les discriminations, la protection des minorités, la liberté de la presse. Et même si c'est pas parfait, on reste la zone la plus libre du monde. Et moi, dans ma citoyenneté européenne, c'est quelque chose que je mets en avant, en tout cas.
Oui. Et maintenant, nous allons lancer un troisième micro-trottoir.
Que pensez-vous de son fonctionnement?
C'est pas ça. Franchement, il y a quelque chose à revoir encore, mais franchement, pas ça pour l'instant.
Bah, c'est-à-dire que son fonctionnement, c'est un peu arbitraire. Il y a trop de représentants et trop de contradictions entre les peuples pour que ça puisse fonctionner normalement, quoi. Surtout qu'il faut que la majorité, il y a une majorité qui décide, quoi. Il faut que toutes les voix se décident, autrement ça marche pas, quoi. Donc c'est aléatoire, quoi. On n'arrive pas à prendre des décisions positives et concrètes, quoi.
Bon, c'est pas glorieux non plus de ce côté-là, hein. Moi, je vois que par rapport à l'éducation que nous, on a reçue, nous, on se base sur l'éducation qu'on a reçue. Et ce qu'on voit, ce qui se passe aujourd'hui, on est déçus, sans en dire plus.
Bah, en ce moment, je ne suis pas trop toutes les infos, donc je ne peux pas vous dire si... Voilà, je sais que là, la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne, mais sinon, mis à part ça, je ne connais pas trop.
Bah, c'est quand même des avantages parce qu'on est, c'est quand même facilité entre tous les pays. Après, moi, dire ce qu'il y a comme inconvénient, je pourrais pas vous dire. L'euro, c'est quand même bien.
Bah, monnaie unique, je sais pas.
Comme on veut dans l'Union européenne.
C'est ça.
Voilà. Des alliés en cas de conflit, ouais. En cas de...
Je suis pas très au courant, mais je crois que ils se rencontrent assez souvent et mais qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur ce qui se passe réellement. Dans leur réunion, on n'est pas très informé non plus des décisions qu'ils prennent. Il y a un peu de flou par rapport à ça.
Pas grand-chose.
Très honnêtement, je ne suis pas assez au courant de l'actualité pour pouvoir en penser quelque chose. Mon jugement ne serait pas objectif.
Le fonctionnement de l'Union européenne, je ne sais pas trop. Déjà, je vois de façon un peu monétaire, il y a... Peut-être pas monétaire. En fait, il y a déjà le Brexit qu'on trouve un peu pas bien du coup, avec l'Angleterre, la Grande-Bretagne qui était un peu l'Union. Bon, je ne sais pas trop, je ne me connais pas, mais en tout cas, c'est peut-être regrettable le fait que l'Angleterre quitte l'Union européenne.
J'avoue que je n'y connais pas. Je pense que je ne m'y connais pas assez pour répondre à ça.
Il peut être amélioré, à mon avis. Je crois qu'il faut laisser à chaque pays ses particularités et avoir une politique commune pour tout ce qui concerne l'extérieur à l'Europe.
Quelles sont vos réactions sur le troisième micro-trottoir ?
Alors, je pense que la réaction première, c'est de se dire les gens ne comprennent pas comment cette Union européenne elle fonctionne. Pourtant, ce n'est pas si compliqué que ça. En fait, ça peut être expliqué facilement, mais c'est pas vraiment enseigné à l'école, c'est pas vraiment expliqué dans les médias. Encore récemment, par exemple, le JT de France 2 s'est trompé. Donc, c'est pas clair dans la manière dont on l'explique, c'est pas clair dans comment ça fonctionne. Les médias traditionnels l'expliquent pas bien. Et là, moi, ce qui me marque, c'est que les gens ne comprennent pas. J'entends, c'est arbitraire, il y a des choses qui devraient être prises à la majorité, mais c'est le cas en fait, où on n'est pas au courant de leurs décisions. Bah, par exemple, les chefs d'État, quand ils se réunissent dans un sommet européen, bah, leurs conclusions, elles sont publiques. C'est trouvable dès le lendemain de la réunion, en fait, l'information, elle est là. Il y a des sites qui, certes, sont un peu spécialisés, mais qui existent, les médias traditionnels comme France Info, ils ont des sections Europe qui sont pas mal, mais c'est vrai que l'information, elle n'arrive pas aussi facilement chez monsieur et madame tout le monde que l'information française.
Oui. Quelles sont les différentes instances régissant l'Union européenne et quels sont leurs rôles ?
Alors, il faut voir le fonctionnement de l'Union européenne comme un triangle. Donc, au sommet du triangle, vous avez la Commission européenne qui est la seule à pouvoir créer les lois, les écrire et les proposer. Donc, elle est la seule qui a ce qu'on appelle l'initiative législative. Donc, si vous voulez, vous, par exemple, proposer une loi ou amender une loi, vous pouvez lancer une pétition à la Commission européenne. C'est elle qui vraiment les propose. Ensuite, une fois qu'une loi est proposée, elle doit être votée. Donc, on descend dans les deux coins du triangle, puisque ces lois sont votées par deux instances, deux institutions. On a le Parlement européen qui est le représentant des gens, du peuple, puisque c'est nous qui choisissons nos députés. Donc là, c'est le moment où je rappelle que les élections européennes sont le 26 mai. Donc n'hésitez pas à aller voter, c'est super important. Vous pourrez élire du coup vos députés européens qui vont quand même donner leur avis sur pas mal de lois qui après sont transposées dans le droit français. Donc vraiment, allez-y, ça a un impact sur vos vies, même si parfois vous le voyez pas tellement ça passe après en France, puis en région, puis en département. Parfois, on voit plus que ça vient de l'Europe, mais ça vient de là. Donc c'est les gens, le peuple est représenté par le Parlement européen qui vote, et ensuite c'est les États qui votent par les ministres. Donc si vous avez une loi sur l'environnement, vous allez avoir les 28 ministres de l'environnement qui se réunissent et qui votent, comme le Parlement européen, à égalité avec le Parlement européen. Si c'est une loi sur l'agriculture, ce sera les 28 ministres de l'agriculture qui seront représentés. Et les chefs d'État, qui est quand même la quatrième institution importante, ils sont en dehors de ce triangle et eux, ils donnent les grandes lignes. Donc, je vous disais, ils se réunissent et les conclusions sont tout de suite publiques. Vous pouvez les trouver tout de suite sur Internet. C'est le Conseil européen. Et bien ça, très très vite, vous trouvez les conclusions. Et après, la Commission européenne s'empare de ces conclusions et peut faire des lois et proposer des lois. Mais ils sont bien en dehors du triangle.
À quelle fréquence les assemblées se réunissent-elles ?
Alors, bah, du coup, ça dépend, hein. La Commission européenne, elle travaille tout le temps puisqu'elle propose des lois en permanence. Ensuite, vous avez le Parlement européen qui, lui aussi, travaille tout le temps. Les députés se réunissent en commission, donc en fait, par petits groupes en fonction des thèmes. Donc, vous avez la Commission pêche où il y a un certain nombre de députés, la Commission affaires internationales où il y a un certain nombre de députés. Et eux, ils se réunissent 3 semaines par mois à Bruxelles et puis ils vont voter les lois 1 fois par mois à Strasbourg. Donc là, on a un va-et-vient des parlementaires qui travaillent la plupart du temps à Bruxelles et qui vont voter à Strasbourg, mais eux aussi, ils travaillent en continu. Puis vous avez le Conseil des ministres qui, lui, se réunit quand il y a une loi à voter. Donc en gros, on dit, bah ok, en ce moment, il faut voter une loi sur l'agriculture. On appelle les 28 ministres de l'agriculture à venir. Et les chefs d'État, ça dépend, les sommets, c'est souvent 1 fois par mois. Parfois, il y a des sommets exceptionnels, comme sur le Brexit, par exemple. Il a fallu discuter plus longtemps, donc on a fait des sommets en plus. Donc voilà, c'est des instances qui se réunissent régulièrement quand même.
Y a-t-il des assemblées extraordinaires ?
Oui, bah, comme je viens de le dire, du coup, pour les chefs d'État qui peuvent se rassembler de manière extraordinaire s'il y a un gros sujet. On a eu le cas pour le Brexit, on a aussi eu le cas sur la crise migratoire qui, à un moment, a bien bien secoué l'Europe et il fallait faire quelque chose. Donc, les chefs d'État se sont réunis de manière extraordinaire. Après, pour le reste, comme c'est des instances qui fonctionnent tout le temps, bah, non, il n'y a pas beaucoup d'assemblées extraordinaires.
Comment sont élus les individus faisant partie des différentes instances ?
Alors, je reprends toujours mon triangle. Donc, je commence toujours par la commission qui est en haut du triangle. Ils ne sont pas élus, eux, puisque la plupart sont ce qu'on appelle des technocrates, ceux qui écrivent les lois. Donc, vous avez des gens souvent qui ont fait du droit, de l'économie, des sciences politiques, qui, eux, du coup, se chargent d'écrire les lois, qui sont spécialistes. Vous avez des spécialistes de l'agriculture, des spécialistes de la pêche, et eux, ils travaillent tout le temps à essayer d'améliorer les lois. Et puis à la tête de chaque gros groupe, donc par exemple vous avez le groupe pêche, le groupe agriculture, il y a un commissaire. Et lui, il n'est pas élu, il est choisi par son pays. Et ensuite, le Parlement européen doit approuver sa candidature. Ça, c'est quand même un gain de démocratie, puisque quand les États proposent des commissaires, le Parlement européen, qui, je le rappelle, est la seule institution que nous, on choisit, nous, citoyens, directement, eh bien, le Parlement européen a le droit d'accepter ou de rejeter les commissaires. Donc c'est quand même important. Ensuite, vous avez le Parlement européen qui est donc élu tous les 5 ans. Donc là, de nouveau, en 2019, nouveau Parlement élu pour 5 ans. Et donc là, c'est élu à la proportionnelle. C'est important de le savoir. Ça change des élections françaises. Donc ça veut dire que dès qu'un parti dépasse les 5%, il entre au Parlement européen. Donc vos voix comptent vraiment. C'est pas ou l'un ou l'autre. C'est dès qu'un parti dépasse les 5%, ça y est, il rentre au Parlement et il est représenté. Donc votre voix, elle sera représentée au Parlement européen. Donc on ne vote qu'une fois au Parlement européen. Il n'y a pas 2 tours, il n'y a bien qu'un seul tour. Le 26 mai, unique date. Donc, et c'est la fête des mères. Donc emmenez votre maman, achetez-lui une fleur et allez, ou une bouteille de vin, n'importe, et allez voter. Et puis les ministres qui se réunissent donc de l'autre côté du triangle, eux ils sont pas vraiment élus. En fait, ça dépend des pays. Ils sont donc souvent élus indirectement. Donc en France, on vote pour le président. Bah le président après il choisit un premier ministre qui fera un gouvernement. Donc c'est ce qu'on appelle une élection indirecte. Donc finalement les institutions européennes, on a quand même un peu la main dessus et c'est souvent indirect, mais il y a quand même une élection derrière.
Comment sont financées les campagnes électorales européennes ?
Alors, Ça, je pense que je suis presque sûre en disant ça. Ça dépend des réglementations nationales. Donc, il n'y a pas de règlement européen pour les financements des campagnes. Donc, une campagne en France ou en Belgique, par exemple, c'est pas financé pareil. Ça dépend des lois en réglementation dans le pays, en vigueur dans le pays, pardon. Donc, en France, c'est les mêmes réglementations que pour les élections françaises. Par contre, on voit que les partis européens, parce qu'il peut y avoir des partis européens, eux, parfois, ils ont des petites exceptions. On l'a vu là avec des grands groupes qui finançaient les partis européens, notamment le parti de centre-droit, le parti libéral, et ça a fait un peu scandale. C'est interdit en France et c'est permis au niveau européen. Mais ce n'est pas en termes de campagne, c'est vraiment en termes de parti. Du coup, ça, c'est la distinction, elle est là.
Qui peut se présenter aux élections européennes ?
Alors, du moment que vous êtes d'une nationalité européenne, vous pouvez vous présenter sur les listes européennes. Tout le monde peut le faire, en fait, comme une élection classique, en fait. Hein. On a tous et toutes le droit de se présenter du moment qu'on est majeur, qu'on a 18 ans, et du coup, on peut se présenter sur une liste.
Quels sont les critères d'éligibilité et doit-on obligatoirement être affilié à un parti ?
Alors, bah, il y a des listes. Alors, c'est pas obligatoirement affilié à un parti, puisqu'il y a des listes citoyennes, par exemple. Donc, la condition, c'est d'avoir 18 ans d'une des nationalités européennes. Donc, d'avoir la citoyenneté européenne que vous avez, je le rappelle, dès que vous avez la nationalité d'un des 28 États membres. Et ensuite, du coup, il faut une liste, il faut monter une liste. Donc, il faut un certain nombre de candidats sur votre liste, mais c'est tout. Ça peut être une liste citoyenne. Ça peut, là, il y a une liste qui s'appelle Vox, qui est les jeunes, en fait, des jeunes européens de plusieurs pays qui se sont mis ensemble, qui ont monté une liste. On peut le faire sans s'affilier à un parti. Après, on a toujours la force des partis qui fait que on a le nom du parti qui nous permet parfois d'être élus parce qu'en fait, les gens, ils connaissent pas Vox, mais ils vont connaître Parti Socialiste. Voilà.
Quelle est la durée d'un mandat?
5 ans, pardon.
Est-il renouvelable?
Oui, il est renouvelable, il n'y a pas de critères à ce niveau-là. Donc en tout cas, en tant que député européen, il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de limitation dans le temps. Donc c'est 5 ans renouvelable, j'ai envie de dire à vie, puisque le plus vieux parlementaire, c'était jusqu'ici Jean-Marie Le Pen, puisqu'il y a eu un député de plus de 90 ans qui a démissionné pendant la législature précédente.
Avez-vous les pourcentages des personnes qui votent ?
En France ? Alors, vous pouvez trouver le pourcentage sur tous les pays européens. Donc, ça, vous allez sur le site qui s'appelle Eurostat et vous avez vraiment tous les pourcentages. En France, on est autour de 50% de participation aux dernières élections. En fait, on a le même taux que les législatives. On a toujours l'impression que l'Europe, c'est la cata. Ça ressemble aux législatives françaises, en fait. Donc voilà. Par contre, dans des pays comme la Belgique où le vote est obligatoire, on a 98% de participation. Logique.
Y a-t-il une alliance possible entre les élus de différents États ?
Oui, bien sûr, au Parlement européen, les élus de différents États, ils siègent même ensemble. Donc le côté pays disparaît quand même un peu. Et les Français, ils parlent, s'ils sont socialistes, ils vont parler avec les socialistes espagnols, portugais, ils vont même siéger ensemble et ils vont avoir des positions de groupe ensemble.
Quelles sont les conséquences des mésententes entre les différents chefs d'État ? Exemple, France, Italie.
Alors, ça dépend. Au niveau européen, ça dépend de quoi on discute. Il y a des sujets où, quand on va voter, on va voter à la majorité. Donc, ça veut dire qu'à un moment, il faut qu'il y ait une majorité qualifiée. Donc, dans l'Europe, il y a un peu des barrières pour que les gros pays prennent pas trop le lead ou que tous les petits pays se mettent ensemble, ils écrasent pas le reste. Donc il y a quelques petites subtilités. Mais sinon, quand c'est à la majorité, s'il y a qu'un pays qui est pas d'accord, tant pis, ça passera parce que la majorité va l'emporter. Mais il y a des domaines comme la fiscalité, par exemple, si on veut mettre une taxe commune en Europe sur le travail, par exemple, où là il faut l'unanimité. Donc tout le monde doit être d'accord. Et là, c'est l'inverse. S'il y a un pays qui est pas d'accord, eh bien, du coup, ça bloque tout. L'exemple France-Italie, pour l'instant, il est pas très bloquant au niveau européen parce que la migration, c'est pas l'unanimité, parce qu'en fait, c'est pas spécialement européen comme compétence. Mais par exemple, si on veut sanctionner la Hongrie ou la Pologne pour les atteintes qu'ils font aux droits fondamentaux, là, on va se heurter à la question de l'unanimité. Pour sanctionner la Hongrie, il faut l'unanimité des 27 autres. Et là, la Pologne va dire, c'est mon ami, moi je bloque le vote. Et à l'inverse, si on veut sanctionner la Pologne, la Hongrie va bloquer. Donc là, parfois, il y a cette question de ami-ennemi qui peut entrer en compte. Et dès qu'on est à l'unanimité, ça bloque facilement, évidemment.
Quelles sont les conséquences du Brexit pour l'Union européenne et pour le Royaume-Uni ?
Les conséquences sont importantes économiquement d'abord, et c'est évident, il y a tellement de liens entre tous les pays membres que quand il y en a un qui veut sortir, c'est l'enfer pour lui. D'ailleurs, on voit si ce Brexit est repoussé, c'est bien que c'est compliqué et que sortir de l'Union européenne, c'est pas simple. Ça nous rend pas plus riches, ça nous rend pas plus indépendants. Au contraire, le Royaume-Uni va devenir super dépendant de l'Union européenne parce que c'est son marché. Donc, c'est son plus grand marché. Donc, il a tout intérêt à garder un bon lien. Et c'est ça tout l'enjeu. Donc, économiquement, ça va vraiment peser pour les Anglais, pour l'Union européenne aussi. Mais nous, on est 27 et eux, ils sont tout seuls. Donc, quand même, ça joue. On voit aussi, ils produisent pas tout sur leur île, notamment les médicaments, par exemple. Et là, ils ont eu quand même un moment d'angoisse en se disant, il va falloir importer nos médicaments comme avant, sauf qu'il va y avoir un retour des douanes, que les médicaments vont passer des heures et des heures bloqués. Alors, c'est pas un problème quand on parle de Doliprane, ça va finir par arriver, ça va aller. Mais quand on parle de traitements comme pour l'insuline, pour les diabétiques, là, tout de suite, quand il y en a besoin, il y en a besoin. Et s'il y en a plus, c'est un vrai problème et ça met des vies en danger. Donc là, par exemple, il y a quand même des exemples où le Royaume-Uni s'est retrouvé fort, fort en détresse dans le cas du Brexit. C'est pour ça qu'ils ne sont toujours pas sortis.
Pourquoi le Royaume-Uni sort-il de l'Union européenne ?
Vaste question. Alors, à la suite d'un référendum, et quand on répond par oui ou non à une question aussi complexe que, parce qu'on parle de milliers de pages de traités qui liaient l'Union européenne et le Royaume-Uni, et dire oui à tout ou non à tout, c'est un peu incohérent comme situation. Et puis surtout, le vote, il a été complètement manipulé. On a raconté des mensonges sur l'Union européenne, sur l'argent que ça représentait, sur l'argent qu'on pourrait réinvestir dans la sécurité sociale. Et en fait, c'était faux. Il l'a dit le lendemain du Brexit. Et un détail amusant sur le Brexit, le lendemain du référendum, la question la plus googlée de tous les temps au Royaume-Uni, c'était à quoi sert l'Union européenne, ou même qu'est-ce que l'Union européenne. Mais les Anglais, ils ont cherché ça le lendemain du vote. Donc, il était trop tard. Donc, en fait, ils ont voté sans savoir. Et on arrive à des situations comme celle-là pour ça.
Quels sont les accords signés et de quelle nature sont-ils entre l'Union européenne et les autres institutions internationales, exemple l'Union africaine ?
Ils sont de nature en droit, c'est du droit international, donc ça surplombe les droits nationaux. L'Union européenne, tout ce qui est accord économique, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils sont les seuls compétents. Donc si on veut signer un accord économique avec l'Union africaine, il n'y a que l'Europe qui peut le faire. La France, elle ne peut pas signer un accord économique seule avec l'Union africaine, par exemple. Donc tout ce qui est économique, commerce, ça va passer par l'Union européenne. Et ces accords, une fois qu'ils sont signés, ils sont du droit international. Donc ils sont au-dessus, dans la hiérarchie des normes juridiques, ils sont au-dessus du droit national. Donc ils sont plus forts, quoi.
Peut-on dire que l'Union européenne est efficiente ?
Est efficiente Ça, je pense que ça dépend des sujets. Je pense qu'il y a des sujets où on voudrait qu'elle aille plus loin ou qu'elle fonctionne mieux, qu'elle soit plus transparente, plus démocratique. Et il faut continuer d'être exigeant, je pense, et de la faire aller plus loin. Après, je pense qu'elle fonctionne bon an, mal an, pas trop mal quand on connaît son fonctionnement et quand on la compare à comment ça fonctionne dans un pays normal. Il faut pas toujours croire. L'Union européenne, on a tendance à dire elle est pas transparente, elle est pas démocratique. On parle beaucoup des lobbies, comme si les lobbies n'existaient pas au niveau français, quoi, par exemple. Alors que on a quand même les mécanismes qu'on retrouve aussi au niveau français. Donc soyons exigeants avec l'Union européenne, mais soyons justes. Et il y a quand même un monsieur qui disait prendre une décision à 28, c'est pas évident, c'est vrai. Mais on est plus forts ensemble et parfois peut-être ça vaut la peine de prendre un peu de temps et qu'on ait quelque chose de bien après, quoi.
Quels sont les critères d'adhésion d'un pays dans l'Union européenne ?
Alors, il y en a beaucoup. Déjà, c'est toute une négociation. Mais il faut accepter d'adhérer avant tout aux valeurs. Donc, la dignité humaine, le respect des droits fondamentaux. Il y a une charte des droits fondamentaux qu'il faut respecter. Il faut être un pays démocratique. Il faut avoir une presse libre. Il y a plein de valeurs et de conditions démocratiques à remplir avant tout. Et puis, il va falloir à un moment avoir l'euro, il va falloir accepter d'ouvrir ses frontières, il va falloir accepter de jouer le jeu, de mettre des décisions et de transférer des compétences à l'Union européenne. C'est important de jouer le jeu, quoi.
Eh bien, nous recevions Madame Pauline Semons-Desmet pour nous parler de l'Europe, de la Maison de l'Europe à Évreux.
Merci à vous, merci de votre invitation.
Merci beaucoup.
Merci.
J'ouvre l'armoire, j'y trouve vodka et cacahuètes. Je vide l'armoire et je souris avec un air bien bête. Je quitte le nord, adieu moules frites sauce maroilles. Direction la Provence, tomates, piment et huile d'olive. À peine arrivé sur le parking marseillais, je me fais agresser avec des bonjours cons. Ça va con, bienvenue con, et des sacrés fadas, et des cons à tout va. J'en perds maîtresse, et donc je décide de retrouver mon or au moule frites maroilles avant d'être chauve. Et là, des biloutes à tout bout de champ. Ça me rassure, un peu de gentillesse. Bon, juste, je sais toujours pas ce que ça veut dire, biloute. Et tout de suite, on va écouter la petite cuisine de zone libre, le financier.
Bien, donc aujourd'hui, nous allons faire des financiers. Au moins, ça rapporte. Alors, il nous faut donc du beurre.
Combien de grammes de beurre ?
200 grammes. Ouais. Il faut mélanger dans un récipient la poudre d'amande, le sucre, la farine fluide.
La poudre d'amande. 200 grammes, je crois, de poudre d'amande.
La poudre d'amande. Je ne vois rien avec mes lunettes. 200 grammes.
Donc je mets 200 grammes de poudre d'amande.
Oui. La poudre d'amande, le sucre et la farine.
Alors, par contre, la farine, il faut combien de grammes de farine ?
100 grammes.
100 grammes. En farine moulue ?
Bah oui, en bloc.
Ah, pardon, excusez-moi.
Il faut mélanger un plus avec le sucre.
Avec le sucre ?
Oui.
En plus de la poudre d'amande et de la farine ?
Oui.
Il faut combien de grammes de sucre ?
Donc 300 grammes. Là, pour l'instant, on en est à faire fondre le beurre dans une casserole et ajoutez-le donc à la pâte. Alors les blancs, il faudra mettre un petit peu de sel, une pincée. Alors c'est bon, si c'est pas au plus, c'est... Si on a du sel, c'est formidable.
Du sel fin de table ou pas ?
Ouais, du gros sel.
Du gros sel, ah.
Mais non, du sel fin, voyons, pour faire la cuisine. Alors maintenant, nous allons monter blanc neige. Alors maintenant, pour les verser directement, donc... à la préparation que nous avons fait. Alors là, nous mélangeons donc les...
Non, nous mélangeons.
Ben, c'est ce que je viens de dire.
Ah pardon, nous mélangeons donc...
Les blancs, donc, des œufs à la farine et au sucre et à la farine d'amande. Mettre le beurre dedans. Là, mettre ça au four. Donc après, il faudra ajouter le beurre. Bien, une fois que les mélanges donc, ont été réalisés, il nous faut donc simplement mettre donc, la pâte dans le moule à financier et mettre ce moule donc, au four durant 20 minutes. Alors ça nous aura fait une préparation de 30 minutes en tout, 10 minutes de préparation et 20 minutes de cuisson. Donc c'est formidable, c'est vite fait, c'est bien fait, c'est bon.
Avant de passer à la musique, on va faire un petit briefing sur l'Union africaine. L'Union africaine, UA, a remplacé en 2002 l'Organisation de l'Unité africaine, l'OIA, qui a été créée le 25 mai 1963. Elle est une organisation interétatique dont l'objectif principal était la libération et la décolonisation des peuples africains. Cet objectif est quasiment atteint. L'Union africaine attend promouvoir la paix, la sécurité et la démocratie des pays africains. Cela reste aujourd'hui un défi majeur pour ne pas dire impossible, car on constate des crises et des violences sur le continent. La crise du Centrafrique, de la Libye, du Mali. En matière de démocratie, l'alternance dans certains pays est impossible. le président de la République fonde des gouvernances à vie. Exemple, le Gabon avec Omar Bongo. Après sa mort, il a été remplacé par son fils Ali Bongo. L'Union africaine a un président en exercice. Il est élu par ses pairs pour un mandat d'un an non renouvelable. L'actuel président est le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Il y a également un président actuellement Moussa Faki, d'origine tchadienne, au niveau de la Commission de l'Union. Celle-ci est un des principaux organes de l'Union africaine. Cette fonction a été établie en même temps que l'Union africaine, le 9 juillet 2002. Elle a succédé au secrétariat général de l'Organisation de l'Unité africaine. Le titulaire est élu pour un mandat de 4 ans. La conférence des chefs d'État et du gouvernement des pays membres. Il s'agit de coordonner et impulser la politique de l'Union africaine. Le continent africain compte aussi des organisations sur-régionales. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. La CENSAD, Communauté des États sahélo-sahariennes. LAC, Communauté de l'Afrique de l'Est. La COMESA, Marché commun de l'Afrique australe et orientale.
Yeah. Les aventures du Narvalo, c'est dans Ozone Libre.
Cependant, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, il était une fois dans l'Ouest, nous retrouvons nos champions. Question 4 à la suite, science et nature, quelle différence avec une mouette ? Histoire, en 1912, pourquoi était-il constitué de plumes ? Géographie, pourquoi le Nord se trouve-t-il toujours au Nord ? Et People, qui a gagné l'Eurovision en 2028 ?
S'il vous plaît, je demande à intervenir en toute bienséance. Je vous demande de prendre la peine de m'écouter, de m'accorder audience avec bienfait et bienveillance. Si ce n'est pas trop vous demander ni abuser de votre précieux temps, je me permets d'attirer votre attention sur la longueur de votre discours liminaire qui me semble, sans vouloir vous frapper, ni vous paraître indélicat, extrêmement long. Je vous prierai donc avec tout le respect qui vous est dû d'abréger nos souffrances et vous taire. Merci d'avance mes salutations distinguées et une bise à votre mère.
Mardi bingo. Marre des vieux et marre des courses de licorne. Je vais en manger un steak. Vive les Daï. I want to be two Earths. ACDC.
Au couloir, les sadistes. Moi, je suis chez moi ici. Je vous laisse. Je vais claquer la bise à Belzébuth et me taper un petit poulet brisé au taser. C'est le paradis. Putain, d'accord.
Ah nous les CRS, on nous a déjà fait le coup du poulet rôti. Venez les copains, on s'en va.
Colton, bleu, fiche, qui va protéger les gens de bien? Nous, les fers de lance du ruissellement, qui va nous protéger des obscurs zadistes?
Les Anglais au bûcher.
Mais non Jeanne, les zadistes, pas les Anglais. Bon, faut l'excuser, hein, elle est un peu monomaniaque. Bienvenue, welcome, hello, et welcome les potos. Pour vous mettre dans l'ambiance de l'enfer dont je suis le maître à contester... Maintenant, et sans attendre, France Gall. Je vous présente la torture ultime, un concours d'Eurovision perpétuel.
Ah non, pitié, je vote pour le bûcher perpétuel.
Le capitalisme, c'est déjà l'enfer.
Ça nous donne de quoi griller nos merguez pour le 1er mai.
Encore, j'en veux encore.
Lui, si je puis me permettre, je suppose que ce monsieur est un Black Bloc SM, et surtout M.
Ah, il me plaît déjà. Tu veux que je te fouette?
Mais en fait, Satan, tu fais tout ce que tu veux ici. Il n'y a pas de gilet jaune. On fait comment pour être calife à la place du calife?
On l'affronte dans un combat de pouces en trois manches. Main droite, main gauche... Et demain, ce qui provoque un remontage de manche infernal. Celui qui gagne, il a l'enfer. Celui qui perd, le pauvre, il a le paradis. Le purgatoire, c'est pour les zadistes. Il n'y a que des ronds-points.
Stop là, Hellboy. Oh, je suis trop fort. Oh, je veux l'enfer, je l'aurai. C'est mieux que la Startup Nation. C'est mon projet.
Nous retrouvons sur le parvis de Notre-Dame les deux concurrents qui se font face et les flammes de l'enfer qui se déchaînent sur les hauteurs de Notre-Dame.
Oh my god! Sacre bleu, nom de nom! Ça sent le roussi! Pire que les poulets brisés à la sorte barbecue! Il faut que j'y aille! On m'attend sur le direct de BFM! C'est mon projet! C'est mon destin profond!
Le combat est reporté sine die, sine qua non, sine mensuel et non avenu d'Italie. L'anus horribilis de Manu Militari va-t-elle continuer ou va-t-elle prendre fin? Est-ce un complot fomenté par Manu Militari en featuring avec les zadistes, les Black Bloc SM, mais surtout SM, et les obscurs gauchistes pour repousser le combat de pouces le temps qu'il se fasse pousser les pouces grâce à une potion de poussage de pouces. Où est-ce l'œuvre de la main de Dieu, Diego Maradona? Où est-ce?
Je vous supplie à genoux, je rampe à vos pieds, je suis soumis à votre volonté. Amen. Pour des siècles et des siècles. Arrêtez de parler, de nous abreuver, de nous saouler avec vos inutiles paroles. Va de rétro, Satanas et Diabolo. Maintenant, n'ouvrez plus la bouche. Je conclue cet épisode à votre place par une bise à votre maman. Rendez-vous le 30 mai pour la suite des aventures narvalesques dans le futur et l'au-delà.
Les aventures du Narvalo, c'est dans Ozone Libre.
Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas. Il y a 2 mois, je ne connaissais personne à Ozone Libre. Et maintenant, à Ozone Libre... Personne ne me connaissait à Ozone Libre. Et petit à petit, en assemblant des petits riens, j'ai intégré l'écosystème Ozone Libre. La magie a opéré. Je sens qu'aujourd'hui, je fais partie d'un groupe. Attends, Nicolas. C'est de la magie, ça? Eh ben non, c'est du social. Du vrai social. Enfin, le social... C'est magique, en fait. Hein, les liens qui nous unissent, ils sont invisibles, et pourtant, ils sont bien réels. Et comment on les a construits, ces liens? Ben, je crois qu'en fait, on a laissé faire notre nature, tout simplement. Et ben, moi, je trouve ça magique, la nature. Et l'homme est un être social. Et je vais encore le confirmer, ça. Avant, j'étais celui qui venait d'ailleurs, j'étais l'inconnu. Et ben, je peux vous dire que ça n'a pas duré longtemps à Ozone Libre. Naturellement, et par magie, le groupe m'a donné une place. Maintenant, avec Ozone Libre, je cuisine, j'interagis avec le groupe, je débat, je divague, je digresse, je blague, je fais l'andouille, bref, je m'enrichis. C'est pas palpable, ça. C'est pas des euros, c'est pas des tablettes tactiles, c'est pas des iPhones, c'est pas des voitures de sport. C'est du social, c'est de la magie, et nous sommes tous magiciens à Ozone Libre.
Pour conclure cette émission européenne, nous vous rappelons que les élections ont eu lieu le dimanche 26 mai. Nous remercions Pauline Siemens Desmes de la Maison de l'Europe pour son éclairage européen ainsi que toute l'équipe haute en couleur et en mots d'Ozone Libre. Nous remercions également l'équipe des principes actifs, JC, le président du Conseil européen, Damien, le président de la Commission européenne et Timothée, un des jurés de l'Eurovision partiale. Et pour finir en beauté, voici 2 proverbes africains. Avancer, c'est mourir. Reculer, c'est mourir. Donc, il faut mieux avancer et mourir. Avez-vous besoin de bons conseils? Essayez d'emprunter à un ami. Plus votre ami sera riche, plus les conseils seront excellents.